Chapitre 83. Dès qu'il vit six groupes sortir d'Ildakar, chacun avec un sorcier à sa tête, Outros comprit que les défenseurs se lançaient dans un plan désespéré. Serein, il resta d'abord dans son nouveau quartier général. Une autre sortie comme la précédente se solderait par un échec retentissant. Les jumelles, en revanche, se montrèrent vite très inquiètes. En voyant que les défenseurs traçaient des runes, elles ne furent pas loin de paniquer.
« C'est une attaque magique. Ils essaient de nous encercler. »
Après les dégâts provoqués par les guerriers géants et le dragon, Outros ne tergiversa pas.
« Venez avec moi. Nous allons barrer le chemin au groupe qui fonce vers le centre du camp. »
En tête de cette unité, il reconnut le sorcier Nathan et identifia une magicienne d'âge mûr en robe violette. Le sorcier et les autres membres du groupe avaient formé un cercle autour de la femme. Outros voulut charger, mais il n'en eut pas le temps car la magicienne, d'un sort puissant, fit voler Nathan et les autres dans les airs, les éloignant du site où elle se retrouva seule.
« Qu'est-ce que ?»
commença Outros.
« De la magie de transfert !»
crièrent ensemble les jumelles. Alors que la vague de chaleur venue de nulle part balayait le camp, le général leva un bras pour se protéger le visage, mais le phénomène se révéla plus dévastateur que le feu et l'acide d'un dragon. Refusant d'accepter une défaite aussi incompréhensible, Outros s'emplit les poumons d'air brûlant et cria de défi. Ava et Rouva se jetèrent sur lui, l'enveloppèrent et lui prirent les mains, puis elles crièrent aussi, mais pas de rage ou de désespoir. Le sortilège ainsi invoqué généra autour du trio un dôme qui l'engloba au tout dernier moment. Quand ce cocon se referma, les oreilles d'Outros bourdonnèrent. Hélas, un souffle d'air surchauffé fut piégé dans la bulle avec les trois miraculés, du coup chaque inspiration devint une torture. Tandis que l'équivalent d'un torrent de lave déferlait sur eux, Outros tomba à genoux, ferma les yeux et serra les poings. En larmes, Ava et Rouva se blottirent contre lui, chacune prenant la main de l'autre comme si c'était la seule manière de trouver assez d'énergie pour survivre au cataclysme. Quand les choses furent revenues à la normale, Outros se releva et plissa les yeux pour mieux voir à travers la surface brillante du cocon protecteur. À l'intérieur, l'air était brûlant. De plus, il devait absolument savoir ce qui restait de son armée et du camp.
« Libérez-nous, je veux sortir de là !»«
C'est trop risqué !» dit Ava. « Général, chéri, nous ne savons pas s'il reste âmes qui vivent dans le camp. »
« Justement, il faut que je voie tout de suite !»
Épuisés, Ava et Rouva n'insistèrent pas. Quand le cocon se dissipa, Outros découvrit un spectacle de cauchemar. Sous l'effet de la chaleur, le sol s'était comme vitrifié, et de la fumée montaient encore d'éclats de rochers chauffés au rouge. Sur une énorme zone, il ne restait que des cadavres carbonisés, un océan de corps noircis, de crânes explosés comme des melons, de membres ratatinés levés en de vaines tentatives de défense. Des premiers rangs de l'armée, il ne restait plus que trois survivants. Un massacre jamais vu dans l'histoire. Depuis toujours, Outros savait compartimenter son esprit. Pour un chef, il était indispensable de séparer la logique des émotions et de bien distinguer ce qui tenait de l'instinct des connaissances acquises par l'étude. Bref, il avait toujours su garder la tête froide. Face à l'horreur absolue, cette précieuse qualité lui fit défaut. Désorienté comme un enfant devant le désert carbonisé qui s'étendait autour de lui, il estima que 30 000 hommes, au bas mot, avaient péri en quelques secondes. 30 000 fils qui le suivaient loyalement, prêts à donner leur vie pour lui. Oui, 30 000 enfants. Fou de rage, le général hurla à la face d'Ildakar. Sa vengeance allait... Sous ses yeux, les contours de la ville se brouillèrent, puis elle disparut, purement et simplement. Alors que la vague de destruction balayait une large zone du camp ennemi, Nathan cessa de voler dans les airs et s'écrasa lourdement sur le sol, à bonne distance du danger, comme Elsa l'avait voulu. Rendel, les deux Morassites et les combattants de son groupe atterrirent autour du sorcier. Au prix d'un ultime effort, Elsa les avait tous sauvés avant d'activer son sortilège. Souple et puissante, Lies et Thorn se relevèrent sans même prendre le temps de s'épousseter. Un peu sonnés, Nathan, Rendel et les autres se remirent péniblement debout et se préparèrent à vendre chèrement leur peau. mais personne ne se montra. Sans doute tétanisés par ce qu'ils venaient de voir, les soldats de pierre avaient d'autres soucis en tête. D'un regard circulaire, Nathan évalua les dégâts. Des dizaines de milliers de morts. Pour un seul sortilège. Mais une unique perte cruelle. Elsa. Reprenant leurs esprits, les soldats encore vivants dans les environs fondaient maintenant sur le petit groupe. Furieux que ces imbéciles pensent encore à tuer après une telle catastrophe, Nathan les bombarda de feux de sorcier.
« Il faut retourner en ville »
cria-t-il à ses compagnons.
« On file !»
Les survivants de la périlleuse sortie se tournèrent vers Ildakar, leur dernier refuge. Avant qu'ils puissent courir vers la ville qu'ils défendaient au prix de leur vie, celle-ci vacilla dans l'air, puis se volatilisa.
« Esprit bien-aimé !»
s'écria Nathan. Pour comprendre ce qui se passait, il n'avait pas besoin d'un dessin.
« Notre ville ?»
gémit Rendel.
« Ildakar a disparu !»
Les autres survivants semblaient ne pas en croire leurs yeux.
« Nos foyers !»
cria un garde au bras gauche ouvert sur toute sa longueur. Bien qu'en position de combat, les deux Morassites avaient néanmoins blêmi.
« Ildakar !»
Avec le retour du linceul, la ville et presque toute la partie surélevée de la plaine semblaient n'avoir jamais été là. Les magnifiques bâtiments, les jardins, les vergers, le quartier des marchands et celui des artisans, rien. Il ne restait rien. Au loin, le fleuve scintillait au pied d'une butte dérisoirement basse. Isolé du temps, Ildakar s'était de nouveau absenté du monde. Abattu, Nathan songea à la première fois où il avait vu la cité de légende depuis les hauteurs de Kolader. Son livre de ville avait guidé jusqu'à la ville où il avait effectivement trouvé ce qu'il lui fallait, un cœur de sorcier. À présent, sa poitrine lui faisait mal, une réaction au choc émotionnel qu'il venait d'encaisser. Dans son livre de vie, la même prédiction affirmait que la magicienne sauverait le monde. Mais où était donc Nietzsche? Ces mots concernaient-ils en réalité Elsa?
« La question, » dit Nathan, « est de savoir si le linceul est provisoire ou permanent. »
Perdu à la lisière de la zone ravagée, le sorcier se sentit soudain très vulnérable.
« Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il ne faut plus compter sur Ildakar. Mes amis, nous devons filer avant qu'Outros reprenne les choses en main s'il a survécu. Et s'il est mort, j'imagine que ces hommes voudront le venger. »
Même si la fin d'Elsa lui brisait le cœur, Nathan savait qu'elle aurait été fière de son exploit. Sa magie de transfert terrifiante avait porté un coup majeur à l'ennemi qui semblait toujours en état de choc. Mais ça ne durait pas et il fallait dégager d'ici. Sondant les collines, Nathan repéra les autres sections d'assaut, elles aussi en quête d'un refuge. Après avoir dégainé sa belle épée, il la brandit et lança
« Nous ne sommes plus qu'une poignée !» Pourtant, nous devons trouver un moyen d'affronter ce qui reste de l'armée adverse.
« Comment faire ?» demanda Thorn. « Il n'y a plus que nous. »
« Pas tout à fait. Les dés ne sont pas encore jetés. »
À un bémol près, il n'y avait plus de ville à défendre. Contournant la zone sinistrée, l'unité de Nathan fit jonction avec celle d'Olgia qui comptait elle aussi une poignée de survivants. Ce nouveau groupe partit vers l'ouest en direction des montagnes et de Kolader. En chemin, ils retrouvèrent aussi l'unité de Perry puis celle de Léo. Quand ce qui restait du groupe de Julian les rejoignit, Nathan eut confirmation de ce qu'il avait postulé. Le détenteur du don étant mort juste après avoir achevé la rune, un homme avait tiré une flèche enflammée en guise de signal. Regroupés, les défenseurs d'Ildakar continuèrent à s'éloigner du camp. Les terres sauvages dans les montagnes étaient sans doute leur meilleure chance de s'en tirer. Grâce à la Slif, Nietzsche devait être à Serimundi. Si d'aventure elle revenait, ce serait pour trouver quoi? Selon toute vraisemblance, Nathan ne la reverrait jamais. Et ce pauvre Bannon. Alors qu'il avait cru le protéger, le vieux sorcier l'avait piégé dans une ville qu'il détestait depuis le début. Oui, une erreur. Et alors? En quelques mille ans de vie, il en avait commis des tombereaux et il avait fallu les assumer, ça ne ferait qu'une de plus.
« Avançons,
parce que nous devons survivre !»
lança-t-il à ses compagnons abattus. Derrière les fugitifs, l'armée de Pierre tentait toujours de se remettre du choc, mais elle devait encore en être à compter ses morts. Ou trop s'était-il du nombre ? Juste avant de s'envoler malgré lui, Nathan avait vu le général et ses magiciennes, très près de l'œil du cyclone. Mais comment être sûr quand deux détentrices du don étaient dans les parages ? Si le général avait succombé, qui prendrait le commandement des troupes restantes ? Avec un peu de chance, les survivants se débanderaient dans toutes les directions. Arrivés dans les contreforts des montagnes, les survivants marquèrent une pause. Effrayés, fatigués et troublés, tous avaient assisté à la disparition d'Ildakar. Coupés de leur famille et de leurs proches, sans doute à jamais, que leur restait-il à espérer ? Pendant qu'ils se reposaient, ils furent rejoints par l'unité d'Oron, celle qui avait tracé la dernière rune satellite. Dans ce groupe, Nathan fut stupéfié de reconnaître un visage qu'il ne s'attendait pas à voir.
« Damabès, Verna, par les esprits du bien, même quand je traverse la moitié du monde, il faut que les sœurs de la lumière me collent au basque !»
Lors de leur dernière rencontre, Nathan avait brisé la mâchoire de Verna. Aujourd'hui, la Damabès était dans un piteux état, les cheveux emmêlés, les joues maculées de poussière. En plus du général Zimmer et d'une poignée de soldats, sept sœurs l'accompagnaient. Nathan remarqua aussi le sorcier Rennes, chargé d'une mission à l'extérieur d'Ildakar, et les deux jeunes érudits de surplomb du monde, Oliver et Peretta, que Nietzsche avait engagés comme messagers.
« Que faites-vous ici ?»
leur demanda Nathan.
« Nous explorons le monde, »
répondit Peretta, « en gravant tous les détails dans nos esprits. C'est la raison d'être des érudits. »
« Ces jeunes gens, » intervint Verna, « ont réussi à atteindre Tanimura, où ils nous ont parlé des formidables archives. Avec le général Zimmer, nous avons décidé d'aller protéger surplomb du monde, et là-bas, nous avons rencontré Ren, qui nous a guidés jusqu'ici. »«
Que s'est-il passé ?»
demanda le sorcier ventripotent. Un bon millier de questions résumées en une seule.
« Plus tard, » intervint Auron agacé, « nous aurons tout le temps de parler. La priorité, c'est de nous mettre en sécurité. »
« C'est tout ce qui nous reste des sorciers d'Ildakar ?»
demanda Olgia accablée.
« On n'en sait rien, » répondit Ren, « mais la ville n'est plus là. »
Sous le couvert des arbres, Nathan observa un moment le camp ennemi, puis le site où se dressait naguère Ildakar. Alors qu'il sentait peser sur lui le poids écrasant d'une série de désastres, le vieil homme entendit du bruit dans son dos. Comme lui, Verna, Ren et les autres se retournèrent. Quand une panthère couverte de runes magiques apparut, les érudits de surplomb du monde reculèrent en couinant de terreur. En grand professionnel, Zimmer et ses hommes se préparèrent à affronter le fauve. Nathan, lui, soupira de soulagement.
« Pas d'inquiétude, les amis. C'est Mra, la panthère de Nietzsche. »«
Où est-elle, justement, la magicienne ?»
demanda Rendel.
« Quand nous avions le plus besoin de son aide, elle s'est volatilisée. »
Mara se tendit et dévoila ses crocs. Troublée par l'odeur de tant de morts et le spectacle d'une incroyable désolation, elle huma nerveusement l'air. Pour la calmer, Nathan tendit une main vers elle.
« Mara, tu me connais. Tu sais que nous sommes tes amis. »
Dans le groupe, personne n'osa bouger un cil. Comme si elle captait un son lointain, Mara tourna la tête, ses yeux jaunes lançant des éclairs.
« Tu es avec nous, » souffla Nathan. « Ildakar a disparu et j'ignore où est Nietzsche. »
La panthère grogna, redressa les oreilles, regarda le ciel, puis se ramassa sur elle-même comme si elle avait senti quelque chose. Un lien peut-être. Sur un dernier rugissement, elle détala, s'enfonçant dans les collines déjà obscurcies par le crépuscule. Nathan aurait payé cher pour savoir à quel appel elle répondait. En étant incapable, il cessa de se poser la question. De toute façon, il y avait pire. Même en se creusant la cervelle, il n'avait pas la moindre idée de ce que son groupe pourrait faire face à l'armée encore gigantesque d'Outros.